Bonjour à tous. L'Europe a-t-elle perdu la foi? C'est une chose d'y croire, une autre de revendiquer les valeurs chrétiennes de l'Europe. Spécialiste de l'islam politique, le politologue Olivier Roy publie aujourd'hui « L'Europe est-elle chrétienne au seuil ?» où il interroge notre identité, l'identité chrétienne et les valeurs de l'Europe. Mais d'abord, il est la tête d'affiche du nouveau film d'Olivier Assayas, « Double vie », en salle mercredi, présenté à la dernière Mostra de Venise, est un marivaudage amoureux dans un secteur de l'édition en plein chamboulement, bouleversé par le numérique, avec notamment Juliette Binoche et Vincent McCain. Alors, acteur double, Guillaume Canet est avec nous jusqu'à midi et demi. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Excuse-moi, je suis en retard.
T'es jamais à l'heure.
Ouais, j'étais en rendez-vous avec Laure.
C'est chaud, ça. Laure.
Qui s'occupe du développement de l'édition numérique. Asseyez-vous.
J'ai toujours l'impression que dans le monde de l'édition, le numérique, c'est un peu vu comme le diable.
Vous êtes là pour bousculer un peu les habitudes.
Jusqu'où?
Ah bah ça, c'est à vous de me le dire.
Bonjour Guillaume Canet.
Bonjour.
Ni trop grand, ni trop étriqué ce costume. Vous vous êtes senti à l'aise dans ce rôle d'éditeur, un peu gardien du temple?
Pas vraiment au départ, en fait. J'étais un peu surpris par la proposition d'Olivier de jouer ce personnage parce que j'avais une idée un peu établie des éditeurs avec un certain âge. Enfin, je me voyais pas, peut-être je vois pas mon âge, quoi, qui est 45 ans, et que je pense qu'à 45 ans, on peut totalement être éditeur. Mais je me voyais pas avoir cette maturité, cette capacité, en fait, à tenir une maison d'édition. Et je sais pas, je me trouvais pas forcément crédible dans le personnage.
C'est un cadrat qui fait déjà partie de l'ancien monde, comme on dit aujourd'hui, dans cette distinction entre le nouveau et l'ancien. Il est en train de vivre l'ubérisation de sa profession, l'édition. Il voit venir les changements, il presse un peu ce caractère disruptif qui va se produire. Et il a pas du tout envie que ni lui ni sa maison d'édition se laissent emporter par cette vague numérique. Quelles sont les valeurs qu'il défend comme éditeur?
Bah, je pense qu'il défend la volonté de préserver une certaine curiosité et une certaine possibilité pour chaque lecteur d'aller au bout des choses. En fait, c'est un peu ce que représente pour moi aussi le film et ce qu'il a d'intéressant, c'est que on a aujourd'hui, avec la numérisation, avec toute la révolution numérique, on a ce principe que les gens peuvent aujourd'hui très facilement commencer un livre et puis l'arrêter parce qu'ils vont partir en vacances avec une tablette et ils vont en emporter 50 et ils vont en commencer un, aller au bout de 10 pages, se dire « bon, ça m'emmerde, tiens, je vais changer ». Et en fait, ça empêche en fait cette curiosité que l'on peut avoir quand on part avec un bouquin en vacances et qu'on le commence et puis on se sent pas forcément, mais on va avoir au moins la curiosité et d'aller au bout pour essayer de comprendre en fait pourquoi on l'aime pas ou peut-être de découvrir en fait certaines autres choses. En fait, d'aller au bout du chemin. Et que quelque part, c'est aussi ce que Olivier raconte très bien dans les histoires d'amour aussi dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui on ne vit plus l'instant présent, on prend pas le temps d'aller au bout des choses et d'essayer même dans la complexité de passer à travers les difficultés qu'elles puissent être dans la vie de tous les jours ou dans la lecture et dans n'importe quelle forme d'art. C'est qu'aujourd'hui, on ne va pas forcément au bout des choses. On est dans le zapping, dans le fait d'aller très très vite, de consommer le plus vite possible les choses et du coup de pas s'arrêter. Et c'est vrai que je pense que lui, la chose principale qu'il a envie de préserver, c'est ça. C'est le fait de prendre le temps avec un ouvrage et d'avoir la curiosité d'aller au bout du chemin et de ne pas succomber à cette révolution qui est de consommer le plus vite possible et un peu n'importe comment, en fait.
Et pourtant, c'est une tentation et pourtant, elle est séduisante. Et d'ailleurs, la personne qui incarne dans le film cette révolution en cours l'est également.
C'est, voilà, c'est ça.
La directrice du département de la disruption du numérique dans cette maison d'édition. à tout pour
c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il est tenté, il est tenté, il est un peu séduit, et puis il en revient assez vite. Et c'est vrai que le rapport qu'il a à ce moment-là avec ce personnage est assez similaire à sa vision des choses quant au numérique. Ouais. Bonsoir Laure.
Bonsoir.
Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous.
Merci.
Ça me fait plaisir de vous voir. On se connaît pas assez.
C'est vrai que c'est un poste un peu nouveau. J'ai toujours l'impression qu'on comprend mal ce que je fais.
Non mais détrompez-vous, tout le monde est conscient des enjeux du développement numérique. C'est bien ça qui leur fait peur.
Et pourtant j'avance sur la pointe des pieds. J'ai toujours l'impression que dans le monde de l'édition, le numérique c'est un peu vu comme le diable.
Bon, on n'en est plus là. Hélas, ou tant mieux, je ne sais pas.
C'est pour ça que j'essaye d'être patiente, pédagogue. Et surtout très humble.
Ouais, c'est pas ce qu'on attend de vous.
Il y a beaucoup à apprendre dans une maison vénérable comme la vôtre.
On essaie de ne pas être trop vénérable tout de même.
C'est un compliment.
Un peu le compliment qui tue.
C'est vrai qu'il y a des choses à changer. Des fois, quand je parle des enjeux, qui sont les vrais enjeux des années à venir, j'ai un peu l'impression d'être l'oiseau de mauvaise augure.
Vous êtes là pour bousculer un peu les habitudes.
Jusqu'où ?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben, où est-ce que vous mettez la limite à ce qu'on peut bousculer ?
Ah bah ça, c'est à vous de me le dire.
Vous savez bien que si on veut aller jusqu'au bout de la démarche, il faudrait tout repenser.
Assayas a choisi l'édition pour ce film Double Vie, mais les questions se posent-elles de la même manière pour vous aujourd'hui pour le cinéma ? Est-ce que Netflix est au cinéma ce que Spotify est à la musique et Amazon aux livres ?
Totalement. Totalement, parce que c'est vrai que c'est un vrai problème qui nous concerne tous. Alors moi, en tant que réalisateur, par exemple, je c'est vrai que c'est quelque chose qui me met un peu en panique de voir que des fois on passe... Moi, j'ai terminé hier mon dernier film, j'ai passé 2 ans dessus, on a passé 5 semaines à le mixer. Quand on sait que beaucoup de gens le verront sur un smartphone avec un son totalement compressé, où ils vont pas entendre, ils vont entendre 10% de ce qu'on a. On s'est emmerdé à essayer de trouver des détails d'ambiance sonore, de choses pour nourrir justement le et enrichir la bande son du film. On sait que c'est quelque chose qui va passer totalement à la trappe. Et dans la consommation, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas rivaliser avec, effectivement, vu la conjoncture et vu la situation actuelle. Et que je comprends bien, c'est que les gens, au lieu de payer 10 euros une place de cinéma, ils préfèrent payer 10 euros un abonnement Netflix où ils ont 1000 films dans le mois et qui peuvent être vus par toute la famille. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi pratique pour plein de gens qui peuvent pas forcément se déplacer au cinéma. Ils sont chez eux. Il y a l'attraction aussi des séries télé qui sont vraiment très très bien faites. Donc c'est une vraie révolution. Mais ça a changé même la perspective et en tout cas la fabrication des films. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vous donne l'exemple par exemple du film d'Olivier. Olivier a tourné en 35, en 16 mm.
En super 16.
Hein. Donc en pellicule. Mmh. Quand on tourne en pellicule, on n'a pas du tout la même façon de travailler que quand on tourne en numérique. Quand on tourne en numérique, on peut refaire plein de prises, on s'embête pas, on laisse tourner la caméra, on fait 20 prises, on s'en fout. En film, c'est pas la même chose. Et économiquement, et techniquement même derrière. On sait que, donc on restreint un peu le nombre de prises, on fait attention, on a la manière de filmer, la manière d'éclairer. On sait qu'aussi quand on tourne en numérique, on n'a plus vraiment à se pencher techniquement sur la lumière, sur le plateau. On sait qu'on peut tout refaire après en post-production, à l'étalonnage. Donc il y a une acceptation, c'est-à-dire qu'on, ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont filmées, même au niveau des journalistes. Mmh. On sait qu'aujourd'hui, avec un téléphone, on fait un truc dans la rue, ça va être consommé de manière hyper compulsive et rapide, et ça va être intégré sans forcément qu'on pense à l'aspect esthétique, en fait, et la manière dont c'est fait.
Et pourtant, Roma, d'Alfonso Cuarón, distribué par Netflix, est un film de cinéma.
Je ne dis absolument pas que je suis contre Netflix.
Ni que ça fait des films au rabais, en fait.
Non, c'est ça. Non, je dis pas ça du tout. Je dis simplement que c'est un fait, aujourd'hui, que aujourd'hui, le cinéma est en crise aussi à cause de ça, mais que ça fait partie de cette révolution numérique sur laquelle on ne peut pas lutter. Que moi, je suis pas du tout à l'abri un jour d'accepter, puisqu'on me l'a déjà proposé, de réaliser quelque chose pour Netflix. Donc, je suis pas du tout contre. Je fais juste un état de la situation, c'est tout.
Et pour les acteurs, voire pour les réalisateurs, est-ce que vous avez le sentiment que les carrières aujourd'hui sont aussi beaucoup plus rapides, qu'on peut être plus facilement victime d'une forme d'obsolescence programmée qu'on ne l'était auparavant?
Oui, sur plein de points. D'abord parce que il y a de plus en plus de films qui sont tournés. Il y a donc une production et une distribution de films qui est de plus en plus massive. Donc il y a de plus en plus d'acteurs, mais qui vont pas forcément tous réussir à perdurer dans le temps. Il y a aussi le suicide numérique, si je puis dire. C'est-à-dire que on sait qu'aujourd'hui, quand on s'exprime sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on dit est à charge contre nous, et que il y a eu beaucoup de dérapages d'acteurs qui peuvent les mettre aussi en danger sur leurs attitudes ou leurs comportements ou leurs réflexions par rapport à certaines choses, et qui font que les gens aujourd'hui jugent, cataloguent et très très rapidement, quoi. De toute façon, comme tout va vite, effectivement, comme tout est très vite digéré, je pense que il n'y a pas de raison pour que les acteurs ne soient pas digérés aussi rapidement.
Ça, c'est un autre aspect important de ce film d'Olivier Assayas. Il dit qu'il voulait dédramatiser les rapports hommes-femmes qui sont entrés aujourd'hui, on le sait tous, dans une zone de turbulence. On peut en parler. Vous êtes à l'aise sur ce sujet-là.
Bien sûr.
Ouais. Vous trouvez qu'il en a fait une lecture très contemporaine, très actuelle dans ce film?
Moi, je trouve que, ouais, totalement. Quand je vois les personnages féminins du film, par exemple, que ce soit, par exemple, cette jeune, justement, le personnage interprété par Christa Terré, qui se laisse pas autant que ça, puisqu'on pourrait penser justement que lui se sert d'elle et essaye d'aller goûter à cette révolution numérique, si je puis dire. Elle n'est pas dupe non plus du tout de la manière dont il procède. Le personnage qu'interprète Nora aussi est formidable, et j'adore sa position justement dans le couple avec Vincent. Non, moi je trouve que les rapports totalement en osmose avec la situation actuelle et avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Ouais.
Vous les trouvez en osmose? Sur cette question du couple, de la fidélité, de l'amour, vous n'avez pas le sentiment qu'au contraire, il y a un espèce de retour des conventions et qu'il prend aussi le contre-pied en montrant une forme de marivaudage un peu à la française.
Mais vous trouvez que ce marivaudage n'existe plus aujourd'hui?
Si, mais je trouve qu'on le montre moins.
Ah oui, ça c'est autre
on
chose.
On s'autorise peut-être moins à le montrer.
Ah oui, ça c'est autre chose. Ça, oui, d'accord, je pensais que je ne comprenais pas ce que vous disiez, d'accord. Oui, mais n'empêche que entre ce qu'on le montre, entre ce que l'on montre et entre ce qui existe, je trouve que ces couples sont complètement intégrés dans leur époque, quoi.
C'est un film aussi sur la vérité, sur les apparences, sur le mensonge. Quelle est, vous, votre définition de la vérité, Guillaume Canet? Est-ce qu'il faut toujours dire la vérité?
C'est une bonne question. Je me demande s'il faut que je vous mente, en fait. Non, je trouve que toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire. Et je pense que le plus important, c'est d'être surtout vrai avec soi-même, en fait. Parce qu'à partir du moment où on est vrai avec soi-même, je pense qu'on peut avoir une honnêteté avec les autres, en fait.
Et dans votre jeu, si le cinéma est un art du mensonge ou des apparences aussi, est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'est jamais meilleur à l'écran que quand on est vrai? Est-ce que c'est ça aussi la recherche que vous pouvez avoir comme acteur?
Bien sûr. Évidemment, c'est un des... C'est une des sensations les plus importantes et les plus intéressantes que l'on peut ressentir et que l'on cherche en tant qu'acteur, c'est de ressentir cette vérité. Et d'ailleurs, les moments les plus excitants ou les plus fabuleux que j'ai pu ressentir moi en tant qu'acteur, c'est les moments où j'ai eu l'impression d'être dans le vrai et de vivre des vraies des situations vraies et d'essayer de retrouver en tout cas un sentiment de vrai dans des situations qui sont à la base écrites et fabriquées. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent aussi l'improvisation et les accidents sont très très intéressants. Quand on a un accident sur un plateau et que l'on réagit à quelque chose, il y a un moment tout d'un coup de vérité qui apparaît et qui est formidable. Je sais que par exemple, pour ma part, j'ai énormément de difficultés des fois à trouver cette vérité si par exemple je ne comprends pas réellement un déplacement, je ne comprends pas réellement une situation à jouer qui, pour moi, n'est pas en accord avec ce que l'on raconte, en fait.
Et là, vous êtes dans un dispositif qui est très différent dans ce film d'Olivier Assayas, Double Vie, que celui que vous avez pu connaître, par exemple, sur Mon Garçon de Christian Carion. On peut retrouver peut-être une vitesse ou une forme d'inconfort similaire, mais est-ce qu'il y avait de la place pour de l'improvisation dans ce film d'Olivier Assayas? C'est quand même la difficulté ou la particularité du rôle, c'est que le film a beaucoup de textes. C'est un film à thème, c'est presque aussi un film à thèse. Assayas parle d'un film avec des idées. Est-ce que ça a rendu ce rôle compliqué pour vous?
Très, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même manière de travailler, d'aborder le personnage. Il y avait énormément de textes. Le film est très bavard, mais pas de manière péjorative. Mais c'est vrai qu'on a des scènes avec... des fois, on avait 8 pages de texte dans une scène. Donc, pour l'apprentissage déjà du texte, c'est pas la même chose. Moi, j'ai une manière de travailler où j'aime beaucoup apprendre le texte au dernier moment parce qu'il y a une musicalité qui est importante pour moi. Et je n'aime pas poser cette musicalité tant que je n'ai pas vu les déplacements. C'est-à-dire que, par exemple, sur un film plutôt normal, je lis plusieurs fois une scène, beaucoup de fois, mais sans l'apprendre totalement par cœur. Et c'est le matin, quand tout d'un coup, on fait la mise en place et que je vois les déplacements et que je comprends la mise en scène de la situation, de la scène, à ce moment-là, au maquillage, là, je l'apprends concrètement. Là, c'était pas du tout la manière dont je pouvais procéder parce que il y a tellement de textes que je pouvais pas m'amuser à apprendre le texte au dernier moment. Donc forcément, je suis obligé de l'apprendre avant, d'y porter forcément une musicalité avant que le metteur en scène vienne y mettre sa patte. Et c'est vrai que Olivier est un metteur en scène très précis dans le rythme, dans les déplacements, donc bien souvent, j'arrivais avec quelque chose en tête qui était pas du tout ce qu'il avait lui en tête forcément puisque je peux pas savoir ce qu'il voit non plus totalement de la scène.
Et un dialogue qui est le moteur de l'action, qui est le moteur du drame aussi en permanence.
Exactement. Donc du coup, ça m'a beaucoup déstabilisé parfois. Et je dois dire aussi que, en étant très honnête, je suis pas quelqu'un qui est suffisamment cultivé pour me sentir à l'aise dans toutes les situations que j'avais à interpréter parfois, parce qu'il y a des moments où j'avais l'impression que c'était absolument pas mon monde. Et que à la fois c'était très excitant et très intéressant, très amusant, mais que des fois j'avais l'impression d'être un peu à la traîne. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus confortable dans des films où il y a un recours plus à l'instinct qu'à l'apprentissage et à la répétition, quoi.
Mais excuse-moi, c'est très répandu, ça.
C'est un phénomène de société. Faut être à l'écoute.
Enfin, moi, ça m'accable. Enfin, je veux dire, je me sens totalement incompétent face à ça.
Bah oui, tu sais, on lit aussi pour se changer les idées. C'est un fait.
Oui, mais moi, mes livres, c'est l'inverse. Enfin, je veux dire, ils font que enfoncer le lecteur. Il y en a qui écrivent des feel good books. Moi, j'écris quand même des... Enfin, on peut le dire, hein. Moi, j'écris des feel bad books.
Bah, y a un public pour ça aussi.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
La société propose d'abord des valeurs qui sont extrêmement matérialistes, extrêmement et qui sont celles du travail et d'un travail qui est de plus en plus bizarre. Enfin, je veux dire, au fond, les gens font l'économie numérique, la transformation de la société, l'évolution des métiers de service et ainsi de suite. Au fond, cantonnent les gens quand ils trouvent du travail à des fonctions qui ont à voir avec la manière dont la société tourne et où eux-mêmes sont séparés des tenants et des aboutissants de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de terriblement aliénant dans la société contemporaine, et c'est pour ça que j'ai le sentiment que c'est au fond à travers l'accomplissement de soi-même, et cet accomplissement de soi-même, il a à voir aussi avec un retour vers soi-même, avec la possibilité au fond de penser sa place dans le monde tel qu'il est, qui est plus complexe que ce qu'on dit, dans lequel il y a le passé, il y a le désir, il y a l'inconscient. Je pense que l'art tel qu'on le pratique, ou l'art avec lequel on peut avoir un dialogue, est une manière de se sauver. Et c'est précieux, c'est quelque chose qu'il faut défendre comme un trésor. C'est l'opposé de ce qu'il peut y avoir d'oppressant, de violent, d'anxiogène. La société, elle suscite ces angoisses aujourd'hui.
L'époque est narcissique, ce qui pourrit l'art et les artistes. Ça, c'est dans le dialogue d'ouverture entre l'éditeur et l'écrivain. On retrouve aussi cette fameuse phrase du Guépard, « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Évoqué dans le film, on retrouve toutes les obsessions d'Assayas qui, même s'il dit ne pas vouloir qu'on entende le texte, eh ben on l'entend quand même beaucoup lui penser à travers votre personnage quand vous parlez. On retrouve ses idées, on retrouve ses maîtres à penser. Ça va de Bergman à Michel Foucault, et puis ça va bien sûr d'Éric Rohmer, clin d'œil appuyé à ce réalisateur cinéaste qui lui est cher, et notamment à L'Arbre, Le Maire et la Médiathèque, à l'heure où la Cinémathèque de Paris consacre justement une rétrospective au réalisateur de Manu Chémeau ou de Pauline à la plage, ancien critique des Cahiers comme Assayas. Rohmer, c'est un cinéaste référence aussi pour vous, Guillaume Canet. Vous disiez, c'est pas toujours mon monde, le monde d'Assayas.
Non, c'est un cinéma que je trouve extrêmement intéressant, et d'ailleurs je pense que si j'ai une qualité peut-être en tant qu'artiste, enfin je sais pas si je peux m'appeler ainsi, mais en tout cas je sais que j'ai une grande curiosité en fait dans toutes les formes d'art, et surtout dans toute leur diversité. Et c'est vrai que dans le cinéma, par exemple, je peux être très friand de cinéma totalement opposé, totalement différent. Et que je peux totalement apprécier un film de Rohmer comme apprécier un film d'un cinéma totalement différent. Mais c'est pas mon cinéma de référence, c'est évident.
Le spectacle d'une fille qui pleure me désarme toujours tout à fait. Surtout quand elle est jolie.
Pas mal, cette fille.
Laquelle ?
Celle que tu as regardée, là-bas ?
Ah non, mais je regardais pas les filles.
Tu devrais, parce que tu es seule.
Vous seriez mieux avec votre fiancé ?
Oui. Elle provoque en moi un désir certain, mais sans but. Le trouble qu'elle provoque en moi me donne comme un droit sur elle.
On aime quelqu'un parce qu'on le trouve beau.
Non, on le trouve beau parce qu'on l'aime.
Je crois pas que je puisse aimer une fille qui n'est pas amoureuse de moi. Et comme il n'y en a aucune qui m'aime, eh bien je n'aime personne.
Oui, je n'ai jamais rencontré le grand amour jusqu'ici. Je veux le rencontrer.
On a tort de caresser une fille qu'on n'aime pas. C'est même la suprême immoralité.
Je vous cite quelques phrases de Rohmer. Vous me dites s'il y en a une qui vous intéresse, vous m'arrêtez. On a tort de caresser une fille qu'on n'aime pas. C'est même la suprême immoralité. Non, je passe. Je ne crois pas que je puisse aimer une fille qui ne soit pas amoureuse de moi. Et comme il n'y en a aucune qui m'aime, je n'aime personne.
Non.
Ok. On continue sur vos influences à vous. Vous dites que vous avez souvent, enfin que vous avez un goût pour un cinéma d'auteur populaire. Vous évoquiez le sentiment de ne pas appartenir exactement à la même famille qu'Assayas. Thierry Frémaux, une fois, vous voyez comme un enfant d'Audiard. Il y a ces grandes influences qui ont pu passer dans votre cinéma, dans votre filmographie, votre famille aussi de cinéma, avec notamment Gilles Lellouche, Marion Cotillard, François Cluzet, des acteurs que vous mettez aussi devant votre caméra. Alors on va terminer peut-être avec ça, la réalisation. Vous avez tout juste fini le tournage de Nous finirons ensemble, qui est la suite suite, 7-8 ans après Des petits mouchoirs, avec cette bande d'amis, de copains, de comédiens. Et il est quand même aussi question, comme dans Le Assayas, du temps qui passe et de ses effets sur les êtres dans vos films. Il en sera peut-être aussi question dans le prochain. Avec vous, qu'est-ce qui fait disrupter les amitiés?
C'est vrai que c'est un thème qui m'est de plus en plus cher. Et notamment le thème de Nous finirons ensemble va dans le sens aussi, peut-être quelque part, que j'ai commencé à aborder dans Rock'n'Roll et dont parle Olivier aussi dans son film. Le narcissisme dont vous faisiez tout à l'heure état, c'était aussi le sujet pour moi de Rock'n'Roll. Et ce narcissisme est un sujet très important pour moi par rapport à la société dans laquelle on vit, l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Et quelque part, oui, le temps qui passe et le sujet de Nous finirons ensemble, c'est aussi ça. C'est-à-dire que je pense qu'arriver aussi à une génération, à un âge où on se rend compte qu'on a des priorités, où il y a des choses qui se passent, on a perdu un parent, on a eu des enfants, on a un couple qui se sépare, il y a plein de choses qui font que on n'a plus le même rapport à l'amitié, puisque on a des choses tellement importantes qui ont pu se passer dans notre vie que c'est vrai que le rapport que l'on a à l'amitié change parce qu'on n'a plus envie de faire les mêmes efforts. Et qu'à la différence des petits mouchoirs où on a pu à une certaine génération se dire que toutes les vérités sont pas bonnes forcément à dire et qu'on met les choses sous le tapis et qu'on n'ose pas forcément dire les choses. Je pense que quand on arrive à un certain âge où on a commencé à vivre des choses très importante, on se gêne moins pour dire la vérité, dire qu'à quelqu'un qui s'est devenu un con, que c'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on est obligé de le rester, en fait. On a le temps qui passe, on se rend compte qu'on en a de moins en moins et qu'on n'a pas envie d'en perdre avec des conneries et avec des mensonges et avec le fait de se voir vieillir, de se sentir vieillir. Voilà, de sentir que le temps qui reste est assez court et qu'il faut en profiter un maximum et qu'avec qui on a envie de le partager ce temps-là.
Merci Guillaume Canet.
Merci à vous.